Salut les rebelles intelligents. Comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu, je suis vraiment un adepte du 20-80. C'est-à-dire des 20% d'actions qui amènent 80% de résultats. Et comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo que j'ai tournée au Japon il y a un an, j'ai essayé d'appliquer ce principe 20-80 à l'immobilier, c'est-à-dire en essayant d'automatiser, de déléguer un maximum de choses. Et comme vous le savez, si vous avez vu cette vidéo, ben ça s'est pas toujours bien passé. Notamment, je suis passé en France par un prestataire qui s'appelle Élise Franck. Et ça s'est tellement mal passé en fait que je suis même en procès avec elle aujourd'hui. Et suite à cette vidéo qui je crois a été vue à peu près 70 000 fois, y a pas mal de gens qui m'ont dit en gros, tu sais Olivier, dans l'immobilier, le 80-20, c'est compliqué, y compris quelques experts. Donc du coup, je me suis dit, ok, bon, il y a des experts qui me disent ça, mais qu'est-ce qui se passe si je leur pose la question? Si je demande à des experts immobiliers, quelle est d'après toi la manière la plus simple, la plus efficace, la plus libre de prise de tête pour investir dans l'immobilier de manière efficace à horizon long terme, hein, donc j'ai dit 20-30 ans. Et donc j'ai envoyé un email à plusieurs de ces experts qui m'ont gentiment répondu. Donc je vais vous partager leur réponse et ça va aussi être une vidéo interactive. Si vous aussi vous avez une stratégie pour investir dans l'immobilier de la façon la plus libre de prise de tête possible à l'horizon 20-30 ans, eh bien partagez-la dans les commentaires, ça sera très intéressant. Donc je commence par Yann Darwin que vous connaissez peut-être, qui a une chaîne YouTube notamment sur l'immobilier et qui me dit donc, tu sais, mon credo maintenant, c'est maintenant, pas dans 20 ans, mais je me prête à l'exercice avec plaisir. Il me dit, attention par contre, disclaimer, qu'on soit bien clair, je vais parler de stratégie de diversification et non pas de primo-investissement. C'est-à-dire en gros qu'il ne recommande pas d'appliquer la stratégie là qu'il va partager en premier. Vous devez d'abord investir en l'immobilier classique. Si on parle à l'horizon long, très long terme, c'est-à-dire 20 ou 30 ans, et que la priorité numéro 1 est l'ultime passivité, pour le meilleur rapport risque-temps ROI et cet horizon de temps, je choisirai des actifs avec gros potentiel de hausse dans un coin extrêmement dévalorisé. Type en crise, post-crise, au plus bas. Alors, triple checklist avant de se lancer dans un plan comme ça. 1. Une croissance démographique bien orientée sur le secteur. 2. De gros projets d'urbanisation ou de modernisation en horizon 10 ans. 3. Une fiscalité basse ou optimisée grâce à des dispositifs spécifiques ou inexistants, en suivant la chose choisie. Donc, fiscalité inexistante. Donc, il dit voilà pourquoi. 1. Tous les marchés connaissent des cycles plus ou moins longs. Miser sur des actifs extrêmement sous-valorisés est un bon pari pour maximiser son retour sur investissement sur des horizons de temps aussi vastes. Tu peux aussi acheter beaucoup plus pour pas cher et maximiser la revente. Tu délègues toute la gestion car leur rentabilité immédiate n'est pas, pour une fois, ta priorité. Pour les biens loués louables, l'objectif est à peine d'être à l'équilibre pendant le temps de détention. Pour un plus gros potentiel, si tu acceptes un niveau de risque supérieur et que tu n'as pas besoin de cash, tu peux viser des biens très peu liquides de type terrain nu, biens en ruine, zone non constructible, zone à urbaniser. Dans bien des coins, on peut acheter beaucoup pour vraiment peu cher. Et ensuite, tu attends longtemps, hein, voilà, et donc là, il me dit en parenthèse, ça te laissera le temps de voyager. Il dit quelques exemples pour bien comprendre. Achat en 2009 au pire des subprimes, revente 10 ans plus tard. Achat en 2010 en Espagne. Achat en 2011-2012 en Grèce et Portugal. Achat au Brésil dans les quartiers en mutation à la frontière des favelas. Achat dans les zones urbanisées dans les pays de l'Est, Bulgarie, Croatie, Estonie. Vous voyez, là, on a une démarche intéressante et on trouve aussi quelque chose qui finalement est vrai en entrepreneuriat, c'est que les crises sont toujours des moments d'opportunité. C'est quand tout le monde est en train de paniquer que les prix se crachent et que les gens font n'importe quoi, que il y a des opportunités à prendre pour les gens qui savent garder la tête froide et qui comprennent que de toute façon, c'est un cycle normal, que des crises, il y en a déjà eu, il y en aura encore, et que forcément, les prix vont remonter. Ensuite, on a Miguel Ferrari, que vous connaissez sans doute, hein, du blog Esprit Riche, qui me dit « La manière la plus libre de problèmes et profitable sur le long terme, c'est l'immobilier papier. Il y a deux formes, les SCPI ou alors les foncières cotées en bourse. » Selon l'IEIF, les foncières cotées en France ont un rendement sur 20 ans de 13,5%. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était quand même assez énorme, parce que 13% c'est vraiment énorme. Je lui ai demandé ses sources, donc il me les a données et je vous ai mis le lien là juste en dessous. Donc là, clairement, Michael recommande d'investir dans l'immobilier papier, c'est-à-dire de plutôt de vous embêter vous-même à faire les choses, vous prenez des actions dans des entreprises qui, dont le métier est d'investir dans l'immobilier. Donc effectivement, du coup, vous n'avez plus aucun problème. Comme il le dit, l'avantage essentiel, c'est zéro gestion, zéro temps, zéro problème, tout en ayant un rendement indexé sur l'inflation. Donc là, c'est similaire à investir dans des trackers. Par contre, du coup, on perd un des gros leviers de l'investissement immobilier, c'est-à-dire que c'est très, très difficile d'avoir un prêt bancaire pour investir dans des actions, dans des entreprises. Ensuite, on a Fabrice Pata, qui est un investisseur au Québec, qui dit pour moi, une des bonnes manières d'investir dans l'immobilier sur un horizon 20-30 ans, l'idée de problème, c'est le viager. Pas de problème de recherche ou de gestion de locataires, une fiscalité quasi nulle. Sur un horizon de 20-30 ans, l'achat d'un immobilier à 30-40% de sa valeur actuelle, et ce malgré le risque très calculé de la rente viagère à vie, va faire que l'investissement a de bonnes chances de réussir. Ensuite, on a Charles Guimin, qui est un entrepreneur français qui vit à Malte, qui a des investissements à Malte et aussi en Hongrie, et qui bientôt va investir au Québec, qui dit « Ayant testé plusieurs types d'investissements, long terme et court terme, meublés et non meublés, particuliers, sociétés avec ou sans financement, qui a déjà pas mal d'expérience sur plusieurs géographies, Malte, Budapest et maintenant Détroit, j'aurais tendance à dire que le meilleur investissement en termes de risque et récompense est d'acheter des espaces de bureaux. Ensuite, on peut les louer à l'espace au mètre carré. » Donc plusieurs raisons. 1. Les clients sont des sociétés, ils sont en général meilleurs payeurs que des particuliers. 2. Les baux sont en général de plus longue durée. 3. Les prix au mètre carré se louent plus cher. 4. Quasiment aucune gestion locative, on vérifie juste la réception des paiements. 5. Moins de maintenance, pas de problème avec les cuisines, les salles de bain. Selon les pays, il est parfois possible de transformer les bureaux plus tard comme logement, au cas où la demande en bureaux se réduise, ou pourquoi pas faire du Airbnb pour booster la rentabilité. Mais dans ce cas, il faut absolument confier un gestionnaire pour que ça ne devienne pas chronophage. Après, si on veut aller encore plus loin dans le raisonnement, je pense qu'investir dans des terrains est encore moins chronophage. On achète le terrain et on le loue. Le locataire a l'entière responsabilité. Donc là, on a Florian qui est aussi un investisseur au Québec. Donc là, en fait, j'avais aussi posé la question dans mon mini mastermind immobilier au Québec. Et du coup, il y a eu des discussions entre les membres. Donc Florian qui dit effectivement, la location de terrain nu est quelque chose de très peu prenant et à la fois très rentable sur le long terme. Je suis d'accord avec Yann lorsqu'il dit qu'il faut acheter dans des zones à urbaniser avec Charles pour la location de bureaux. Le croisement de ces deux approches peut être très intéressant avec l'exploitation de terrain nu dans des zones à urbaniser. Par exemple, j'ai acheté un terrain de 1000 m² à Kribi au Cameroun, il faut savoir que Florian est Camerounais, qui est en train de devenir la plus grande zone portuaire en Afrique francophone, pour y construire des logements que je louerai à des entreprises pour y loger leurs salariés. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères comme Bolloré, Total, EDF ou encore des sociétés chinoises qui s'implantent dans la ville, ce qui dynamise la zone d'un point de vue démographique et économique. Le prix au mètre carré a pratiquement doublé en moins d'un an dans la zone et les terrains commencent à se faire rares. Beaucoup de particuliers proposent ainsi leur terrain nu en location à des sociétés étrangères, qui exploiteront les terrains comme ils veulent en contrepartie d'un loyer. Généralement, les sociétés paient 1 à 3 ans de loyer en avance. Waouh ! Ça, c'est quand même pas mal. Ce qui peut permettre d'avoir un bon fonds de trésorerie dès les débuts de la location. Bolloré loue des terrains à Kribi, à des particuliers pour ses entrepôts. La chaîne hôtelière Pullman loue également un terrain à Kribi pour y construire un hôtel. Et ensuite, on a donc Dan Sonafuo, qui est également un membre du Mastermind Immobilier au Québec, qui dit « La façon la moins risquée d'investir me semble investir dans ce qu'on connaît le mieux et de s'ajuster en fonction des imprévus qui arriveront en cours de route. On a déjà assez mal avec ce qu'on connaît, pourquoi s'embarquer dans ce qu'on connaît pas ?» L'immobilier, c'est le secteur. En achetant, j'achète un type de locataire. Est-ce que je veux courir chaque mois après les loyers? Est-ce que je veux un bien dans une zone inondable ou sécuritaire pour lequel chaque fois on va m'appeler pour les réparations, les insectes et les animaux nuisibles? Pour une personne patiente, et en investissement, il vaut mieux l'être, je lui suggérerais d'investir dans un bien en bon état, pas de rénovation majeure à court terme, avec de bons locataires dans un bon secteur. Et surtout, se rassurer que le bien se paie tout seul. Donc voilà les rebelles intelligents pour ce premier tour d'horizon. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres stratégies pour investir sans se prendre la tête dans l'immobilier. Donc voilà, si vous avez identifié une stratégie qui ne demande pas trop d'efforts, qui peut être le passif au maximum, c'est-à-dire que l'idéal, c'est que vous avez 5 minutes à y consacrer par an. Hein. Pour moi, ça, c'est ce qui représente l'investissement idéal. Eh bien, partagez votre avis, votre stratégie, votre méthode dans les commentaires. Ça sera très intéressant de brainstormer un petit peu là-dessus et de voir ce qui en ressort.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.